Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'ai rencontré Valérie dans le sud du Yunnan, dans une région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses magnifiques rizières. Valérie Léonard était là avec son appareil photo pour capturer la beauté des paysages. Ayant la double nationalité, Valérie Léonard a baigné dans une dualité. Sa mère était peintre et son père, le photographe Hermann Léonard. Valérie a choisi de se diriger vers la photographie et reste fidèle à la doctrine de son père. Toujours dire la vérité, mais en termes de beauté. Valérie fait partie de celles qui se donnent les moyens de vivre un rêve et une passion. D'abord, chef de cabine pour Air France, elle est devenue par choix photographe. Regarde ailleurs vous emmène à sa rencontre.
D'habitude, quand je voyage, j'achète ou je loue une moto et je suis très autonome. Je peux aller où je veux, je m'arrête, je reste avec les gens, je fais connaissance. Je dors chez eux et je commence mon travail photographique au bout de quelques jours simplement, en fait. Et là, en Chine, je ne peux pas le faire, pas du tout.
C'est ta première fois en Chine ?
En tant que photographe, oui. En tant que photographe, oui.
Et tu disais, c'est la dernière.
Ah oui, c'est la dernière, oui, c'est la dernière, ça c'est sûr. Non, parce que voilà, c'est parce que ici tout est compliqué, en fait. Tout est compliqué, je sais que... Je suis allée, par exemple, plusieurs fois en Inde. Et en Inde, les choses sont compliquées. Ils aiment bien la paperasse. Ils aiment bien avoir des permis pour faire tout ce qu'on doit faire. Mais on peut se déplacer et tout est possible, en fait. Et en plus, on peut se débrouiller à peu près en anglais. Tandis qu'ici, la langue est vraiment une énorme barrière. Et je pense qu'ils ont été... ils ont très peur de prendre des responsabilités, là. Par exemple, j'étais dans ce bled complètement perdu, là. Je sais même plus où j'étais, d'ailleurs, quand je suis arrivée en Chine, à Tongjin. Et j'ai repéré une mine de manganèse. Et je voulais absolument aller faire un sujet sur les mineurs, puisque j'ai fait des sujets sur les mines au Sri Lanka, les mines en Afrique, les mines d'or... Et où je descendais dans la mine, parce que ça sert à rien de photographier des mineurs à l'extérieur et dans leur maison si je les prends pas en photo en train de travailler dans les souterrains. Et là, en Chine, c'était impossible. J'ai dû, pendant une semaine, négocier, parler au chef du comté, être au petit soin avec lui. Ben non, ils veulent pas, parce qu'en fait... Ils ont prétexté au départ une excuse de superstition. Ils pensaient que les femmes n'étaient pas assez pures pour entrer dans la mine. En fait, je savais que tout ça, c'était faux. En fait, ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Ils ont peur qu'il m'arrive quelque chose. Et ils ont tellement été sous le carcan du régime qu'en fait, maintenant, ils ne prennent aucune responsabilité. Ils sont complètement comme des robots, comme des petits soldats à obéir à un chef. Et en fait, ce chef, il a dit non parce qu'il avait trop peur pour moi.
Mais c'est vrai que quand on arrive en Chine, on se rend très vite compte que tout est bloqué, tout est bridé. Ce n'est pas du tout évident d'avoir une liberté de mouvement, déjà rien qu'avec sa connexion Internet. Je ne sais pas quelles sont ta boîte mail, mais si tu as Gmail, ça ne marche déjà pas. Ça commence déjà par ça.
Je le savais avant de partir, ça. Je savais que je n'aurais pas... Gmail, je savais... En fait, je savais même pas que Hotmail fonctionnait. Hotmail fonctionne, heureusement. Et même Skype. J'étais très surprise aujourd'hui de voir que Skype fonctionnait. J'avais WeChat, enfin des applications sur iPhone. Mais Skype a pu fonctionner aujourd'hui, donc ça, c'était très bien. Donc c'est vrai que le Wi-Fi, c'est déjà difficile. Mais je me rends compte qu'en discutant avec les Chinois et avec les jeunes, ils sont au courant de rien du tout, en fait. Ils ont les yeux complètement bandés. Je vois encore partout dans les maisons des posters de Mao qu'ils vénèrent. Ils n'ont aucune notion de la véritable histoire de Mao et ce qu'il a fait à son peuple. Ils n'en ont aucune. Et, et je ne peux pas vraiment leur en parler, sauf à certains qui, à certains jeunes qui ont le désir ou qui ont même des plans très très précis d'aller en France et de s'installer en France et de vivre en France. Et eux sont très curieux d'avoir la vérité, de la connaître.
Mais c'est sûr qu'ici, c'est pas facile d'avoir accès à l'information. Donc, pour avoir tous ces échanges, ces discussions avec les locaux, comment tu t'y prends? Donc, tu voyages avec une amie qui, elle, parle le chinois, c'est ça?
En Chine, oui. En Chine, oui. En Chine, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer une Chinoise à Paris, qui vit à Paris depuis 20 ans, et qui devait venir en Chine, et qui m'a proposé de venir avec elle. Et à Shanghai, elle m'a présenté sa nièce qui a 22 ans et qui apprend le français et qui va venir en France à la fin de cette année et pour, je crois, rentrer dans une université pour apprendre le français. Et elle s'appelle Didi et elle me sert d'assistante et de traducteur et elle vient avec moi partout où je vais. Ce n'est pas mon habitude. D'habitude, quand je voyage seule. Et sauf au Cameroun et au Nigeria, où j'étais avec un garçon, un local, qui m'accompagnait, qui me servait un petit peu de traducteur, parce que là-bas, il y a 260, au Cameroun par exemple, il y a 260 dialectes. Donc lui, il me servait de traducteur et surtout de garde du corps, parce que c'était très dangereux quand j'étais proche du Niger, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et lui connaissait beaucoup de monde, donc j'étais. Moi, je me sentais un petit peu en sécurité avec lui. Autrement, je suis toujours seule.
Valérie, je t'ai rencontrée aujourd'hui sur le marché. Je t'ai vue avec deux énormes boîtiers photos, des objectifs, et puis j'observais un petit peu. J'aime bien cette démarche d'observer ce qui se passe autour de moi. Et je t'ai approchée en te demandant ta carte. Donc Valérie, toi, tu es photographe, mais apparemment, tu n'as pas toujours été dans cette branche-là. Donc qui est Valérie? Comment est-ce que tu te présenterais?
D'abord, je m'appelle Valérie Léonard. Je suis à moitié américaine. Mon père est américain, ma mère est française. À moitié anglaise et française, en fait. Et je suis photographe depuis 4 ans. Et avant, j'étais hôtesse de l'air et chef de cabine pour Air France pendant 29 ans.
Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de prendre un tournant, de quitter ce boulot?
En fait, mon père était photographe. Il s'appelait Hermann Léonard et lui, il a été photographe pendant 68 ans, donc de 20 ans à 88 ans. Et moi, j'ai vécu avec mon père, forcément, donc j'étais dans son studio tous les jours et c'était mon école. J'ai appris la photographie, j'ai appris le regard, j'ai appris les angles, j'ai appris la technique. Avec lui, j'ai appris la composition des images avec ma mère, parce que ma mère était peintre. Et en fait, j'ai toujours voulu être photographe depuis toute petite. Mais c'est quelque chose, je crois, qui est assez classique. Je voulais être photographe, mais je n'osais pas l'être et je n'osais pas le dire à mon père parce que j'avais peur. En fait, j'avais peur qu'il n'aime pas mes photos. Je n'avais pas peur d'être la fille d'Hermann Léonard et de commencer, qu'on compare mon travail aussi. Ça n'avait aucune importance pour moi. Mais vraiment, ce dont j'avais peur, c'est que lui n'aime pas.
Cette peur de décevoir finalement ses parents, quoi. C'est
voilà,
ça.
C'est ça. C'est la peur de décevoir. Parce que pour moi, le seul juge, c'était lui. Pas mes amis. Mes amis me disaient, c'est très joli, tes photos sont belles, etc. Mais je ne les croyais pas. En fait, c'était mon père. Et donc, je suis rentrée à Air France. J'ai commencé ma carrière de navigante, que j'ai adorée, parce que j'ai voyagé énormément et j'ai exercé donc mes capacités de contact humain. Et puis, il y a environ 4 ans, mon père, il était toujours en train de travailler et il était en train de photographier un chanteur américain et il avait mal au genou. Et puis bon, il est allé voir le médecin et le médecin lui a dit, on va faire un check-up. Et au check-up, on lui a dit, écoutez, vous avez une leucémie et vous allez mourir dans 6 mois. Et donc, mon père m'a prévenu et moi, je me suis dit, il faut absolument que je lui parle. Je suis allée à Los Angeles, je lui ai dit, tu vas mourir et il faut que je te parle avant, parce qu'après, tu ne seras plus là et c'est pour moi, il faut que je te parle. Et je lui ai dit, voilà, j'ai toujours voulu être photographe, j'ai jamais osé te le dire. Et là, il m'a dit, mais pourquoi ? Enfin, je lui ai dit les mêmes choses. Je lui ai dit, voilà, je pensais que tu n'aimerais pas mon travail. Il m'a dit, mais montre-moi ce que tu as fait. Donc, je lui ai montré quelques petites photos. Je n'avais pas d'appareil photo professionnel du tout à l'époque. Je lui ai montré des petites photos sans intérêt. Hein. Et en fait, il a dit, mais tu as le talent, tu as l'œil, c'est dans tes gènes, tu dois continuer, tu dois être photographe. Et là, ça m'a complètement libérée et je suis partie, je suis retournée à Paris et je me sentais extrêmement légère. J'ai acheté mon matériel professionnel, je suis partie en Birmanie et pendant que j'étais en Birmanie, mon père est mort et je suis revenue à Paris et j'avais fait une série de photos et j'étais bouleversée par la mort de mon père et donc je suis repartie tout de suite au Mali. Et à chaque fois que je pars un mois, entre un mois et cinq semaines. Et je suis partie au Mali, et c'est là que j'ai trouvé ma thématique des travaux d'Hercule, où j'ai décidé de faire, de photographier ces hommes et ces femmes dans le monde qui ont des travaux très durs, et d'essayer de montrer la noblesse et la beauté de ces personnes, sans faire d'esthétisation de la misère, sans faire sans faire des photos avec des enfants qui mendient dans la rue, non, mais en photographiant des gens vraiment qui travaillent. Mon père me disait, en anglais, il me disait « You tell the truth, but in terms of beauty ». Tu dois dire la vérité, mais en termes de beauté. Et c'est ce que j'essaye de faire.
Oh,
j'ai photographié des forgerons, les forgerons de Bamako. J'ai fait les mines d'or dans le désert à côté de Koulikoro. J'ai fait l'extraction du sable dans le Niger. Et j'ai fait un autre sujet qui est la cuisson des poteries dans une île à côté de Ségou. Quand je suis rentrée, j'avais rien à perdre. J'ai pris les pages jaunes, l'annuaire, et j'ai regardé où était le National Geographic à Paris. Et puis j'ai écrit une petite lettre. Et puis j'ai édité mon premier livre avec quelque chose sur Internet qui s'appelle Blurb. Et je suis allée au bureau de National Geographic et j'ai vu la fille à l'accueil et j'ai donné mon livre et avec un petit mot en disant voilà, est-ce que vous pouvez donner ça au rédacteur en chef? Je ne connais pas, mais voilà. Et il m'a appelé et il m'a donné rendez-vous la semaine d'après. Donc j'étais tremblante quand j'y suis allée parce que je me disais que, bon, j'imaginais que beaucoup de photographes rêvaient d'avoir un rendez-vous avec le rédacteur en chef du National Geographic. Et en fait, le rendez-vous s'est très bien passé. Je suis restée pendant 2 heures. Et il ne comprenait pas comment je pouvais faire ces photos-là. Alors, je lui disais que ça faisait que 3 mois que j'étais photographe. Mais alors, je lui expliquais, en fait, toute l'histoire. Pourquoi je savais un peu quand même me servir de l'appareil photo. Et il m'a dit, mais il faut absolument que vous participiez à un concours. Vous savez qu'il y a un concours de photo de National Geographic. Alors, je ne savais pas, évidemment. Il m'a dit, mais il faut envoyer une photo. Donc, j'ai envoyé une photo et j'ai gagné le premier prix du concours 2 mois après.
Ça commence fort, là. C'est super.
Oui, tout de suite. Ça a été très bien pour moi parce que, en fait, ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Même si à chaque fois que je suis en train de travailler, je déteste mes photos, je ne les aime pas, je ne suis pas contente de ce que j'ai fait. Il me faut beaucoup de temps pour accepter ce que j'ai fait après un voyage, parce que j'ai beaucoup de travail sur mes photos, non pas de post-production, parce que je fais très peu de changements sur mes photos. Je ne recadre pas. Mon père me disait qu'il fallait pas recadrer, que si une photo était pas bonne, you can't polish a turd. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais je travaille sur l'exposition, la lumière, en fait, tout ce qu'on faisait ensemble dans la chambre noire, c'est le même travail. Ce que je disais, c'est que oui, ce prix, et puis après l'année d'après, non, même pas l'année d'après d'ailleurs, je suis retournée le voir lorsque je suis revenue du Cameroun et il a beaucoup aimé ma série sur les façades de Manjo au Cameroun et il m'a... J'étais photographe du mois du National Geographic, mais sur le site internet, avec cette série de façades. Et ensuite, j'ai créé mon site internet. Et puis, après, j'ai participé à d'autres concours et j'ai eu d'autres mentions et d'autres prix. Et puis, j'ai vendu mes photos, en fait. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens qui ont aimé mes photos parce que les gens, en fait, achètent mes photos comme des tableaux, comme les gens qui achetaient les photos de mon père, c'était ça. Ils les mettent sur leur mur chez eux. Donc les photos sont numérotées de 1 à 10. Il y a 3 formats et j'ai mon tireur avec lequel je travaille. Les photos sont sur du papier baryté, contrecollé sur alu, encadré en caisse américaine ou avec un verre musée. Enfin, c'est vraiment un objet. Hein. Ce sont des photos assez grand format. Ce qui se passe, c'est que les clients qui achètent mes photos sont des collectionneurs. Et lorsqu'ils ont les photos chez eux, ben, leurs amis arrivent. Et puis après, ils m'appellent ou ils m'envoient des mails. Et jusqu'à présent, j'ai eu la chance de pouvoir vendre mes photos.
Donc là, c'est essentiellement comme des œuvres d'art, hein, donc voilà. Des tableaux numérotés à des particuliers. Tu me parlais du National Geographic. Est-ce que tu as aussi réussi à vendre un reportage au National Geographic? Comment ça marche pour travailler avec eux? Parce que ça fait rêver énormément de photographes.
Oui, alors ça fait rêver, mais j'ai jamais rien essayé avec eux. Je n'ai pas essayé. D'ailleurs, il faut que j'y retourne, en fait, tout simplement. Il est très difficile de faire ce métier, de faire tout à la fois, surtout à notre époque maintenant. Il faut avoir une bonne connaissance technique de la photographie, que avoir ses boîtiers en main et que ça ne soit pas un frein. Il faut être extrêmement réactif, aller très vite quand on fait une photo. Moi, je fais toutes mes photos, évidemment, en mode manuel. Donc, dès lors que je bouge un peu de 2 mètres, je dois tout changer très, très vite. Donc, il faut avoir une bonne connaissance donc technique de ces appareils. Ensuite, il faut créer son style ou il faut trouver son style photographique pour qu'on puisse savoir que c'est toi qui as fait la photo. Moi, je sais que quand je vois n'importe quelle photo sur le net, je sais que c'est mon père. Sans mettre un nom, je ne connais pas tout son travail de 68 ans, mais je sais tellement son style et je sais tellement le style de certains autres photographes. C'est comme un musicien. Quand on entend une musique, on sait que c'est lui qui a créé cette musique. Donc moi, il faut créer son style, mais en même temps, il faut trouver ses sujets. Il faut y aller, il faut rentrer. Il faut travailler en post-production sur ses photos, il faut travailler sur Internet et il faut être surtout son propre agent. Parce que il n'y a pas de bons agents de photographes. Et ça, c'est encore sans faire... Je ne veux pas parler que de mon père, mais je me réfère à lui parce que lui, c'est sa grande expérience. Mais il me disait qu'il n'y avait pas de bons agents. Les bons agents de photographes sont des agents de photographes extrêmement connus. Donc en fait, la voie est royale pour eux. Elle est toute ouverte, c'est facile. Mais un agent d'un photographe pas connu, c'est très difficile. Donc il n'y a pas de bons agents. Donc il faut être son propre agent au départ. Et puis il y a la question de la visibilité. Donc à travers Internet, à travers les sites, à travers les articles qu'on fait sur toi. J'ai été interviewée par plusieurs personnes qui ont mis mes interviews sur Internet. J'ai été aussi éditée dans certains magazines étrangers qui ont acheté mes photos, voilà, qui m'ont contactée, qui m'ont dit « on a remarqué vos photos, est-ce qu'on voudrait voilà, un magazine allemand, un autre magazine d'ailleurs, je crois, chinois même ?» Et puis aussi dans un autre livre qui s'appelle « The Other Hundred ». Donc, cette visibilité est très importante et aussi, en dernier, pour la visibilité, je pense que c'est immanquablement faire une exposition. Je n'ai exposé qu'une seule fois, c'était au Grand Palais et c'était à l'occasion du Salon des artistes où j'avais été sélectionnée pour exposer mes photos. Je pense qu'il y a une autre façon d'exposer, évidemment, ce sont les galeries. Et la dernière, c'est créer soi-même sa propre exposition, c'est-à-dire louer un lieu, payer tous les frais techniques inhérents à ces... Il faut au moins 30 photos, donc c'est très très cher. Louer le lieu et avoir un carnet d'adresses assez conséquent, parce que sinon ça ne sert à rien. Si on invite ses amis, les amis des amis, ce n'est pas eux qui vont acheter les photos. Il faut avoir un carnet d'adresses très important. Et c'est pour ça que la plupart des photographes passent par des galeries. Parce qu'elles, elles ont le carnet d'adresse, mais le point négatif, c'est qu'elles prennent 50% du prix des photos. Donc, moi, je donne un exemple très précis et je parle directement parce que mon éducation américaine, voilà, c'est ça, je dis les choses directement. C'est que, par exemple, mes photos, elles me coûtent par photo tirées, contrecollées, encadrées. J'en ai minimum pour entre 700 euros, 800 euros.
Par photo.
Par photo, oui.
Sans compter tous les frais engagés pour aller la réaliser, quoi. Parce que ça, c'est encore complètement autre chose.
Oui, je ne parle même pas du voyage, je ne parle pas des frais. Non, je parle simplement du laboratoire. Donc, je paye à peu près 600, 700 euros, ça dépend de la taille de la photo. Si je la vends 2000 euros, ça ne sert à rien. Si la galerie vend la photo 2000 euros, parce qu'elle va me donner 1000 euros, moi, je ne gagne rien. Donc, il faut que la galerie vende la photo 4000 euros. Parce qu'elle va garder 2000, elle va me donner 2000. Et ça, c'est très difficile.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors toi, dans la photographie, parce que bon, là on parle de photos, mais il y a tellement de branches différentes dans ce métier, c'est très vaste. On peut photographier de l'alimentaire, des bouteilles de vin, des mariages. Oui. Toi, tu as choisi la photographe reportage, photographe de voyage. Pourquoi ?
Reporter humaniste. Bah parce que c'est l'homme qui m'intéresse, c'est l'être humain qui m'intéresse. J'ai pas choisi ce métier. Je n'ai pas choisi ce métier pour gagner ma vie. J'ai choisi ce métier parce que c'est ma vie, parce que c'est l'air que je respire, parce que sinon, parce que j'ai changé de vie. Donc, coûte que coûte, de toute façon. Donc, je fais ce que j'aime. J'ai pas envie de photographier une bouteille ou de faire des mariages ou de pour gagner ma vie. C'est pas ça. J'ai changé de vie pour faire ce que j'aime. C'est comme si on demandait à un peintre qui devient peintre et qui fait des tableaux, mais t'as pas envie de faire des menus pour des restaurants, des décorations sur des jolies petites cartes d'invitation de menus. Non, il peint ce qu'il a envie de peindre. Et moi, ce que j'ai envie de photographier, c'est l'être humain et de voyager et d'aller loin, partout, dans des endroits et de faire des photos que les gens n'ont pas faites, même si on va au même endroit d'ailleurs, parce que de toute façon, je me rappelle que la fameuse photo là qui avait reçu le premier prix du National Geographic, il y avait beaucoup de monde. C'était au jardin du Luxembourg et il y avait beaucoup de monde ce jour-là à cette soirée du National Geographic. Et il y a des photographes qui sont venus me voir et il y en a deux qui m'ont dit : nous sommes allés au même endroit que vous et on a pas fait les mêmes photos. Et c'est étonnant qu'il me dise ça, parce que je trouve ça tout à fait normal, en fait. Parce qu'on n'a pas le même œil. Parce que le rouge, pour moi, sera plutôt carmin pour eux, et pour moi, vermillon, et orange pour quelqu'un d'autre. Donc, je ne vais pas voir les mêmes choses.
Ce que je trouve très chouette aussi dans ton histoire, dans ce que tu racontes, c'est que tu as fait le choix dans ta vie de vivre la vie avec passion, hein, de tout lâcher. Enfin, de tout lâcher, je ne sais pas si tu as tout lâché. Oui, mais en tout cas, tu te donnes les moyens de vivre de ce que tu aimes.
Oui, j'ai tout lâché, absolument. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, la vie est courte, alors j'en ai fait deux.
Et donc là, maintenant, c'est voyager. Parle-moi un peu de ta démarche dans le voyage, la dynamique. Hein. Comment est-ce que tu voyages et comment est-ce que tu choisis les destinations dans lesquelles tu te rends ?
Bon, alors ça, je vais te faire rire parce que c'est complètement par hasard. Je ne sais pas, c'est à la suite d'une conversation avec des gens. Je suis toujours à la recherche de sujets et une envie d'un pays comme ça, subite. Souvent, les pays, j'y suis déjà allée avec le métier que je faisais en étant navigante pour Air France. D'ailleurs, en Chine, comme je disais tout à l'heure, je suis déjà allée en Chine, mais pas en Chine profonde. J'étais allée à Pékin, à Hong Kong, à Shanghai, mais pas en Chine profonde. Donc je savais qu'il fallait que j'aille en Chine. En fait, c'est horrible de dire ça. Je savais qu'il fallait que j'aille en Chine. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup photographier les Africains, aller en Afrique. Si j'avais le choix, j'irais que là-bas, parce que là-bas, je me marre dès que j'arrive là-bas. Mais il faut que je donne autre chose aux gens, il faut que je leur montre autre chose. Donc, je suis allée le dernier voyage avant la Chine, c'était l'Inde. Et puis, les destinations, j'ai choisi au hasard. J'ai choisi, ce qui est essentiel pour moi, c'est d'avoir un contact sur place. Aller toute seule dans un pays sans absolument aucun contact, ça, avec mon matériel, je ne l'ai pas encore fait. Je trouve que pour l'instant, tant que je peux me permettre de trouver des contacts, autant que je le fasse. Et ça me facilite un peu les choses. Quand je dis facilite, c'est pas toujours aisé. Parce que quand j'arrive dans le pays, si j'ai une idée en tête d'un sujet, c'est jamais ce sujet finalement que je vais faire. Parce qu'il y a des impondérables, il y a des choses qui changent. Et je trouve un autre sujet sur place qui est plus intéressant.
Et pour finir, qu'est-ce que tu conseilles à tous ceux qui ont envie de se lancer dans ce métier de photographe, voyageur, reporter, humaniste ?
Moi, je leur conseille de suivre leur passion et d'y aller, de pas faire comme moi, d'attendre toutes ces années avant de se lancer. S'ils sont jeunes, il faut le faire et il faut y croire parce que il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des photographes. Depuis le début de la photographie, qui se sont lancés. Il n'y a pas de raison Maintenant, je ne pense pas que c'est la mort de la photographie, que c'est la mort de la photographie humaniste. Je pense que il y en aura encore et il y a encore énormément de choses à photographier. Il faut avoir l'œil et le cœur ouvert à ça. Quand on voit les photos de Salgado, on sait que il y en a pas beaucoup comme ça. Et pourtant, les dernières qu'il a prises dans son exposition pour Genesis, c'est pas, ce sont pas des photos qu'il a prises il y a 20 ans. Hein. Donc, c'est encore possible. Et si quelqu'un est capable de faire quelque chose, on est capable de le faire.
Merci, Valérie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.